Voilà, donc on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, donc dans l'évangile de Marc, hein, que je continue de parcourir, on est presque au bout. Et la dernière fois, donc, on s'était arrêté lorsque Jésus a pris le dernier repas avec ses disciples. Et c'est pendant ce repas qu'il a annoncé la trahison de Judas, que Judas allait le trahir. Donc on en est à cet endroit où là ils vont aller au jardin de Gethsémané, et avant ça ils vont aller au mont des Oliviers. Voilà, donc je vous invite à prendre Marc chapitre 14 verset 26. Il est question de lâcheté, beaucoup de lâcheté dans ce passage, de la lâcheté qu'il y a dans le cœur de l'homme, et aussi bien sûr contraste avec Jésus. J'ai intitulé mon message « La lâcheté vaincue par la faiblesse ». La lâcheté vaincue par la faiblesse. Bien sûr, la faiblesse de Jésus. Donc je lirai Marc chapitre 14 à partir du verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous trouverez tous une occasion de chute ». Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père !» Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis. Car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Aussitôt comme il parlait encore, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi » et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il est donc question de ce un passage qui montre bien l'homme. Il est question de beaucoup de lâcheté, mais aussi de faiblesse. Et la vérité centrale qui m'est apparue dans ce texte, c'est que la parole de Dieu, elle est plus forte que la faiblesse de l'homme. La parole de Dieu, elle est plus forte que la faiblesse de l'homme. Et pour cette raison, elle est digne de foi. La parole de Dieu, de Genèse, premier chapitre, premier verset, à Apocalypse, dernier chapitre, dernier verset, toute la Bible est digne de foi. Et elle est plus forte que nos faiblesses. Elle est plus forte que la faiblesse de l'homme. C'est ce que je vais donc développer en trois points. Premièrement, eh bien, la parole de Dieu nous montre tel que nous sommes. Deuxième point, c'est que le véritable combat, puisque nous sommes dans un combat spirituel tous, le véritable combat se joue dans la prière. Et troisième point, eh bien, puisque la parole de Dieu est plus forte que la faiblesse de l'homme, et elle est digne de foi, pourquoi ? Parce qu'elle s'accomplit. Nous verrons au troisième point que la parole de Dieu s'accomplit. Et comment elle s'accomplit ? Donc premier point, voyons comment la parole nous montre tel que nous sommes. Voilà donc Jésus qui part avec ses disciples sur le mont des Oliviers après avoir chanté des cantiques. Alors c'est une petite mention là, mais qui est riche pour nous d'enseignements. Après avoir chanté des cantiques, Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il allait tout droit vers la croix. Certainement que là, il chantait des cantiques en rapport avec Pâques. Ce sont des cantiques, des psaumes pascales, des psaumes de Pâques. Certainement qu'il chantait ces psaumes-là. Pour vous en citer quelques-uns, vous avez le psaume 13, 118, 136. Il chantait des cantiques. Et déjà là, dès le tout début, il y a une application pour nous, parce qu'effectivement, eh bien, chanter des cantiques, je ne sais pas si vous chantez à la maison. En tout cas, c'est un bon moyen de se fortifier. Là, Jésus, il a chanté avec ses disciples alors qu'il allait passer à la croix. Et ils ont chanté. Et c'était un moyen de se fortifier. Et chanter, qui plus est, chanter la parole de Dieu. Là, ils chantaient des psaumes. Eh bien, c'est un moyen puissant pour nous fortifier avant une épreuve. Avant que surgisse une épreuve. C'est un moyen puissant de se fortifier quand ça ne va pas. De chanter la parole de Dieu. De louer Dieu, parce que Dieu ne change pas. Même s'il fait gris dehors, là le temps s'est un peu éclairci, Dieu ne change pas. Et il est toujours, tout le temps, digne d'être loué. Alors on ne se trompe pas en louant le Seigneur à tout moment, quel que soit notre état d'esprit, notre cœur. À ma connaissance, c'est le seul endroit où Jésus chante. Dans la parole. Alors si lui l'a fait, si Jésus l'a fait à plus forte raison, si lui en avait besoin à plus forte raison, nous avons besoin de nous fortifier aussi par ce moyen-là, en chantant ses louanges, en chantant sa parole. On n'est pas plus fort que lui. Imitons-le, chantons la parole de Dieu. On peut le faire dans sa cuisine, on peut le faire dans sa chambre, on peut le faire dans la voiture quand il y a des bouchons. C'est un bon moyen, ne nous en privons pas. C'est un bon moyen pour nous fortifier. Voilà donc Jésus, il part au mont, avec ses disciples, il part au mont des Oliviers. Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. Et il avertit ses disciples de ce qui va se passer. Il prévient ses disciples qu'il serait lui-même une occasion de chute pour eux. Et qu'ils allaient tous l'abandonner, tous, être dispersés. La foi de tous allait défaillir. Alors, Jésus, il est la parole, il le sait. Et il le leur annonce. Et là encore, Jésus cite un passage de l'Écriture dans Zacharie 13, verset 7, que je vous lis, dans l'Ancien Testament, Zacharie 13, verset 7. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Jésus a cité ce passage. Et la fin de ce passage, « Et je tournerai ma main vers les faibles », le comprend ce sont les brebis qui ont été dispersées. Ce passage, il est très encourageant parce qu'il montre déjà que Dieu n'abandonnera pas les faibles, les brebis qui auront été dispersées. Je tournerai ma main vers les faibles. Et Jésus, il abonde dans ce sens. Il annonce pas une mauvaise nouvelle sans annoncer la bonne nouvelle. Il a rarement mentionné sa mort sans mentionner sa résurrection qui surviendrait juste après. Sans regarder au-delà pour redonner espoir à ses disciples. Et malgré leur abandon que Jésus leur annonce, eh bien, il leur donne l'assurance que si eux le renient, lui ne les renierait pas. Il ne les renierait pas, il ne les abandonnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il leur a donné rendez-vous en Galilée après sa résurrection. Il les a invités à voir plus loin que cette épreuve, la plus grosse épreuve qui allait tomber. Jésus voyait plus loin. Il voyait après la résurrection. Il a dit qu'il le rejoindrait en Galilée. Et par là même, il leur a donné un espoir. Et vous vous souvenez, j'avais abordé la prière sacerdotale de Jésus. C'était à peu près après le dernier repas. C'était en Jean chapitre 17. Jésus avait prié que ses disciples soient gardés du mal. Alors oui, et ce que Jésus prie, tout s'accomplit. Sois gardé du mal. Alors, ne nous décourageons pas, si là on voit que le tableau, il est très sombre. Hein. Mais n'empêche que ses disciples seraient gardés du mal. Vous vous rappelez, Pierre, il avait contesté la parole du Seigneur quand il lui avait dit « Non, ça ne t'arrivera pas ». Quand Jésus avait parlé de sa croix, quand il leur avait annoncé la mort et sa résurrection. Et Jésus l'a traité de Satan. Ce n'était pas lui qui parlait, c'était Satan qui parlait à travers la bouche de Pierre. C'était dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 31 à 33. Pierre avait déjà contesté une première fois la parole du Seigneur. Et là, il remet ça. Il conteste une fois de plus la parole du Seigneur. Il a été horrifié quand il a entendu que tous l'abandonneraient. Ça veut dire qu'en fait, Pierre faisait partie de ces tous. Et ça, il ne supportait pas Pierre. Lui aussi, abandonner Jésus. Il ne se voyait pas comme ça, Pierre. Il dit à Jésus que jamais il ne le reniera. Ce à quoi Jésus répond qu'avant que le coq n'ait chanté deux fois, il l'aura renié trois fois. Ce à quoi Pierre répond encore plus fort que jamais il ne le reniera, rejoint par les autres disciples qui affirment la même chose. Mais Jésus est la parole de Dieu. Ils ont contesté la parole de Dieu. Avant leur abandon, n'en doutons pas, ils avaient tous la bonne volonté d'exprimer leur loyauté à leur maître qu'ils aimaient. Mais avant leur abandon, avant que les disciples n'aient abandonné Jésus, ils ont déjà été ici. Jésus a déjà été ici une occasion de chute pour eux parce qu'ils n'ont pas pris Jésus au mot. Ils n'ont pas cru à sa parole. Et Jésus a été une occasion de chute déjà à ce moment-là, avant que les disciples ne l'abandonnent, parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Et ça nous fait réfléchir. Une occasion de chute. Le dictionnaire biblique définit ainsi une occasion de chute. C'est être offensé dans quelqu'un. C'est-à-dire voir dans un autre ce que je désapprouve et qui m'empêche de reconnaître son autorité. Je relis cette définition parce que je la trouve bien complète. Une occasion de chute, être devant une occasion de chute, c'est être offensé dans quelqu'un. C'est-à-dire voir dans un autre, donc la personne qui est l'occasion de chute, voir dans un autre ce que je désapprouve et qui m'empêche de reconnaître son autorité. Là, les disciples étaient, ne reconnaissaient pas l'autorité de la parole de Jésus. Et nous, est-ce qu'il nous arrive de contester la parole de Dieu? Est-ce que nous savons mieux que Dieu que ce qu'il nous dit dans sa parole? Je sais mieux que toi, Seigneur. Par conséquent, j'agis à ma guise. Il n'y avait pas que Pierre, il n'y avait pas que les disciples. Parce que ni Pierre, ni les autres disciples ne se voient tels qu'ils sont à ce moment-là. Ni Pierre, ni les autres disciples n'ont atteint à ce stade-là une foi personnelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imitent les uns des autres. Pierre dit « Jamais je ne te renierai », les autres suivent aussi. Ils n'ont pas une foi personnelle qui va les aider à... qui les aurait rendus plus forts. Ils imitent leurs camarades dans un phénomène de groupe. Attention au phénomène de groupe. Parce qu'on peut se trouver entraîné. Hein. Il y a parfois un décalage entre ce qu'on croit être et la réalité de ce que nous sommes. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle ce que nous sommes. Et ça peut nous déranger, comme ça a dérangé les disciples. La parole de Dieu, elle est comparée à un miroir. Mais nous ne décourageons pas. Il y a des choses que parfois on n'aime pas entendre sur nous-mêmes. Il y a longtemps, en région parisienne, je me souviens d'une jeune femme qui aujourd'hui a 15 ans de plus, je crois. Mais en tout cas, elle était jeune convertie. Elle était toute jeune dans la foi. Et elle m'a dit une fois, elle m'a dit, tu sais, la Bible, elle aurait bien besoin d'être réactualisée quand même. Hein, dans le sens qu'elle est un peu dépassée, quoi. Il faudrait la réécrire avec plus de... elle aurait bien besoin d'être réactualisée. Alors, elle était jeune dans la foi. Mais quand même, elle a soulevé un point crucial ici. Est-ce que nous croyons que la Bible est parole de Dieu? Si oui, il n'y a aucune erreur. Elle est toujours d'actualité comme elle l'était d'actualité dès le premier livre qui a été écrit. elle est toujours d'actualité et elle le restera toujours. Parce que si on veut réactualiser la parole de Dieu, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça sous-entendrait que l'intelligence humaine serait supérieure à la parole de Dieu révélée. Et qu'elle ne serait accessible qu'à une élite qui serait plus intelligente que la moyenne. Une élite qui aurait tout compris, plus intelligente que les autres. Frères et sœurs, non, la parole de Dieu, elle est accessible à tous. Si on n'a pas compris quelque chose, demandons à Dieu, il est l'auteur de sa parole, de nous aider. Alors, attention à cet écueil, de vouloir se mettre au-dessus de la parole de Dieu en prétendant on a mieux compris que les autres. Non, Dieu est clair, toi ou moi ou lui. Il nous éclaire et n'en doutons pas, il veut nous éclairer. Bien sûr, ça nous encourage à creuser cette parole et à chercher à la comprendre. Se mettre au-dessus de la parole peut donner une impression de puissance. Les disciples étaient sûrs d'eux-mêmes. Mais ce genre de force, c'est un leurre. Ce n'est que faiblesse qui amène à chuter ce qui allait se passer. Ce genre de force, entre guillemets, de se croire au-dessus de la parole de Dieu, ça amène à chuter. C'est une occasion de chute. Et c'est là où les disciples ont déjà chuté, avant d'avoir abandonné le Seigneur. C'est se tromper soi-même et sur soi-même, comme les disciples, qui seront vite ramenés à la réalité. La vraie force est de se soumettre à la parole de Dieu, parce qu'elle est parole de Dieu, même si ça ne nous plaît pas. Alors, il y a de l'espoir, parce que l'apôtre Pierre, qui était contestataire, qui a contesté la parole de Jésus, eh bien, après la résurrection de Jésus, il aura bien changé. La parole de Dieu l'aura changé. Regardez ce qu'il dit lui-même dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Donc on est bien après la résurrection. 1 Pierre 1 25. Regardez ce qu'il dit sur la parole du Seigneur. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Il reprend la même idée que dans le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 40 verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors on peut s'y fier, on peut lui faire confiance. La parole de Dieu, elle est éternelle et elle restera éternelle, tout entière, et elle sera toujours d'actualité. Tant que tout n'est pas accompli, nous attendons encore le retour du Seigneur. On est donc dans cette nuit sombre. Eh bien, la même nuit, voilà que Jésus et ses disciples vont au jardin de Gethsémané. Ils partent du mont des Oliviers vers le jardin de Gethsémané. Gethsémané, c'est intéressant de voir la signification. Qu'est-ce que ça veut? Vous savez, les mots dans la Bible ont un sens. Ce mot veut dire pressoir à huile. Jésus va aller au pressoir. Et effectivement, c'est là où Jésus va subir la plus forte pression. Parce que c'est ici, à Gethsémané, que va se situer le plus fort du combat. Avant la croix. Mon deuxième point, le véritable combat se joue dans la prière. Jésus demande à ses disciples de s'asseoir à l'entrée du jardin et il demande à Pierre, Jacques et Jean, donc c'est plus proche, de l'accompagner un peu plus loin pour un moment de prière. Jésus est saisi d'effroi et d'angoisse, nous dit le texte. Et c'est une expression qui est très difficile à traduire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qu'a ressenti Jésus à ce moment-là. Parce que c'est inconcevable pour nous pécheurs. Inconcevable de ressentir ce qu'a ressenti Jésus. Le seul homme sans péché. Et pour cause, c'est inconcevable parce que le seul homme sans péché allait être fait péché pour nous. Il allait être fait péché pour nous. Ce que dit 2 Corinthiens en chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a cette pensée-là. Il a été saisi d'effroi et d'angoisse, à tel point que nous ne pouvons pas le mesurer, parce qu'il était sans péché. Nous, ce n'est pas le cas, nous sommes tous pécheurs. Lui, le seul qui ne méritait pas la mort, il allait goûter à toute l'amertume de la mort, afin que tous ceux qui se confient en lui ne la connaissent plus, l'amertume de la mort. Il a connu l'effroi et l'angoisse pour que nous ne connaissions pas cet effroi. Si nous savons, si nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur, nous savons où nous irons après. Et je crois vraiment que c'est pour nous donner de l'assurance de ne pas craindre. Parce que lui a goûté à l'amertume de la mort. Il a été saisi d'effroi et d'angoisse pour nous, pour que nous ne le soyons pas. C'est étonnant de voir que le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, il avait besoin de soutien à ce moment-là. Parce que lui, le Fils de Dieu, il était aussi homme, homme parfait. Le Fils de Dieu avait besoin de soutien à la fois de son Père, de Dieu son Père. C'est pour ça qu'il prie. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il avait aussi besoin de soutien de qui ? De ses disciples. De ses disciples qui allaient l'abandonner. Il avait besoin d'être avec ses disciples. Bien faibles, les mêmes qui allaient l'abandonner. C'est étonnant quand on y réfléchit. Jésus se confie en quelque sorte à eux, en leur exprimant que son âme est triste jusqu'à la mort. Il le leur dit. Son angoisse, elle était double, elle était à la fois divine, à l'idée qu'il serait séparé de son Père pendant un temps, et elle était bien sûr humaine, à l'idée de la souffrance qu'il allait endurer. Il sait qu'il sera seul sur la croix, et qui sera abandonné de tous, même de son Père. Alors il a besoin de soutien. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il a eu besoin de ses disciples qui allaient l'abandonner. Lui, le Fils de Dieu. Jésus a vécu un dilemme en lui-même. À ce moment-là, il a vécu un dilemme en lui-même. Parce qu'il avait à prendre la décision la plus difficile qui soit, et la plus importante qui soit pour nous. Et il a prié. Et le fait qu'il ait prié montre qu'il avait le choix. Il avait le choix. Après tout, il n'était pas obligé de venir nous sauver. Il avait le choix entre revendiquer ses droits de fils de Dieu, par son identité de fils de Dieu, pour échapper à la croix et abandonner sa mission. Ou résister à cette tentation et choisir de se soumettre en tout à Dieu son Père, en lui obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Un choix donc crucial, c'est le cas de le dire. Nous aussi, nous avons des choix à faire. Tout dans la vie est affaire de choix. Il y a des choix plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Les choix difficiles, très souvent, ils se situent entre avoir confiance et avancer, et craindre et être paralysé par la peur. Très souvent, le choix se situe entre le courage et la peur. Entre la confiance et la peur. Alors, il y a des décisions, quand on est chrétien, qu'on sait être mauvaises. Voilà, c'est pour ceux qui aspirent à partager leur vie avec quelqu'un. Eh bien, la Bible nous met en garde, effectivement, de ne pas se mettre en ménage avec quelqu'un sans être marié. C'est pour notre bien. Mais dans tous les cas, le choix nous appartient. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé de manquer de courage. Moi, ça m'est arrivé. Je crois que ça arrive à tous. Mais si on définit le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Parce qu'on a tous connu la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Jésus lui-même a connu l'angoisse. Et l'angoisse, c'est la peur. C'est la peur. Jésus lui-même l'a connu. L'angoisse, la peur, elle est normale. Nous l'avons connue, pas au niveau de Jésus. Nous l'avons connue, nous la connaîtrons encore. Avant de prendre un risque, peut-être. Peut-être avant de sortir de notre zone de confort, si on y était mené. Nous l'avons connue, la peur, nous la connaîtrons encore. Quelqu'un a dit, si nous avons peur, c'est que nous sommes en vie. Oui, c'est vrai. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est plutôt conquérir sa peur, reconnaître sa peur et vouloir la conquérir. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Proverbe 28, verset 1 nous dit « Le juste a le courage du jeune lion. » Le juste, celui qui se confie en Dieu. Le juste a le courage du jeune lion. Proverbe 28, verset 1. Et parfois, je vais y revenir, eh bien, il suffit de faire un premier pas de foi pour vaincre sa peur. C'est ce premier pas qui va nous délivrer de l'emprise de la peur. La peur, à bien y réfléchir, elle a un côté positif. Elle a ce côté positif et bénéfique si elle nous pousse davantage à nous tourner vers Dieu, à lui faire confiance. Si la peur nous pousse à effectuer les changements que nous savons nécessaires dans notre vie, alors elle est bénéfique. Si elle nous pousse à faire les changements qui vont nous aider à comprendre à mieux comprendre la volonté de Dieu et à nous y soumettre. Alors dans ce cas-là, elle a un effet positif. À faire davantage confiance à Dieu. Alors quand on est devant un choix difficile, que devrions-nous faire? Eh bien, ou lorsque nous sommes tentés, que devrions-nous faire? Faire ce qu'a fait Jésus, c'est-à-dire prier. Prier. Pour se mettre sous l'entière dépendance de Dieu, c'est ce qu'a fait Jésus. Et aussi, nous avons là un enseignement. Si Jésus, le Fils de Dieu, tout-puissant et aussi homme parfait, a eu besoin d'être entouré de ses faibles disciples qui allaient montrer leur lâcheté, s'il a eu besoin de s'entourer de ses disciples, à plus forte raison, dans un problème où il est difficile de s'en sortir tout seul, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit voire à l'église, ne nous privons pas de demander l'aide et la prière des frères et sœurs dans l'église. Ne nous privons pas de prier ensemble et de prier les uns pour les autres. Si Jésus a eu besoin d'aide, nous ne sommes pas plus forts que lui. Jésus priait que cette heure s'éloigne de lui. Puis que cette coupe s'éloigne de lui. Mais la prière suppliante de Jésus à son Père restera sans réponse. Non, il n'y a pas d'autre moyen de nous sauver que lui passe par la croix. Même si tout est possible à Dieu, son Père qu'il appelle Abba, qui veut dire Papa. C'est le seul endroit où Jésus appelle Dieu Papa. C'est un mot affectueux, intime d'un enfant à son Père. Jésus a accepté d'être abandonné volontairement de son Papa pour que son Père devienne notre Papa, nous tous qui avons cru en lui. C'est ce que nous dit l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, donc Paul s'adresse à l'Église, tous ceux qui ont accepté Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Que nous puissions appeler Dieu Papa. Cette intimité entre Dieu et son Père, entre Jésus et son Père, devra s'interrompre quand Jésus portera les péchés du monde sur la croix, montrant le plus grand amour pour nous tous. Le vrai amour, il risque la souffrance. Et ce n'est pas facile de décider. Jésus a prouvé son amour pour nous en ce qu'il était prêt à souffrir, doublement. Il était prêt à souffrir à la fois physiquement, bien sûr, sur la croix. Et je crois la plus grande souffrance, c'était d'être séparé de son Père pendant un temps, momentanément de son Père, de son Papa. Et c'est à ce moment-là que le combat a été le plus fort pour Jésus. À ce moment-là, à Gethsémané, quand il a prié son Père, c'est là que le combat a été le plus fort. Et c'est là qu'il a eu la plus grande victoire avant même de passer par la croix. C'est à ce moment-là que Jésus a eu la plus grande victoire. Comment ? Quelle victoire a-t-il obtenue ? Eh bien, il a obtenu la plus grande victoire lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà où allait la victoire, la plus grande victoire, avant celle de la croix. La victoire de la croix a déjà été gagnée d'avance à Gethsémané, lors de cette prière décisive de Jésus, où il s'est soumis en tout à la volonté de son Père. Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme. Il a soumis sa volonté humaine à sa volonté divine. Il a soumis sa volonté humaine à sa volonté divine. Lui, à la fois pleinement homme, homme parfait, sans péché, et pleinement Dieu. Accepter la volonté de Dieu et s'y soumettre conduit à la victoire. Tandis que faire sa propre volonté conduit à la défaite. Il y a une décision qui est la décision la plus importante à prendre dans la vie. C'est celle de devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est la décision la plus importante qu'un homme ou qu'une femme puisse prendre dans sa vie. Et si parmi ceux qui écoutent, eh bien, si vous n'avez pas encore pris cette décision, eh bien, priez. Avec vos propres mots. Dites à Dieu vos luttes, vos hésitations. Et dites-lui simplement, « Oui, Seigneur, sauve-moi !» Et il le fera. Il y a des décisions difficiles à prendre. Vous avez entendu parler, il y a plus d'un an de cela, il y a eu des églises qui ont été agressées au Nigeria et il y a eu des meurtres. Des chrétiens ont été tués, assassinés à Noël 2023. Et la foi de ces chrétiens a été durement éprouvée. Ils se sont demandé si Dieu ne les avait pas abandonnés. Et ils se sont posé la question de garder ou non la foi après une telle épreuve. Qu'ont-ils fait ? Ils ont prié. Et ils ont été fortifiés. Il y a un pasteur qui est en charge des réfugiés au Nigeria, dans un camp de réfugiés. Parce que les djihadistes les ont chassés de chez eux. Ce sont des chrétiens, beaucoup, qui ont été chassés de chez eux. Il y a quelqu'un qui est pasteur, il s'appelle Ayuba. Il est en charge des réfugiés. Et il a eu des doutes, il a partagé lui-même ses propres doutes. Il a eu des doutes s'il devait et s'il pouvait s'occuper de ces milliers de réfugiés. Il se sentait complètement incapable. Mais il a dit oui à Dieu. C'est lui-même qui le témoigne. Il a dit oui à Dieu. Que s'est-il passé? Et Dieu lui a donné la force. Il lui a donné la force d'assumer ce ministère. Il en témoigne lui-même. Alors même si on n'a pas tous les éléments, même si on n'a pas tout compris, d'abord dire oui à Dieu. D'abord dites oui à Dieu, faites-lui confiance. Et lui, il s'occupe du reste. Il vous donnera toutes les ressources dont vous avez besoin. Au plus fort de la détresse, Jésus a prié. Et il a dit oui à Dieu. Que s'est-il passé? En retour, Dieu l'a fortifié. Il était prêt, Jésus. Il était prêt. Il était prêt à aller à la croix. Alors que ses disciples n'ont pas été capables de veiller même une heure avec lui. Lui était prêt, pas ses disciples. Il est retourné les voir trois fois pour leur rappeler de veiller. Et il leur avait déjà dit, veillez et priez. Quand Jésus leur a annoncé la fin des temps, il leur a dit de veiller et de prier. Jésus est allé retourner les voir trois fois. Ça aurait dû rendre Pierre d'autant plus vigilant que Jésus l'a prévenu qu'il le renierait trois fois. Jésus est allé les voir trois fois. Mais Jésus fait le reproche à Pierre, même si tous dormaient. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Ne jetons pas la pierre à Pierre. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous arrivons à veiller une heure tous les jours dans la prière? Pierre qui se croyait si fort. Sans veiller, il ne pourra pas être capable de ne pas renier son Seigneur. Pourtant, Pierre avait montré qu'il était capable de veiller. Il y a un épisode dans l'évangile de Marc et de Luc aussi. Pierre avait réussi à veiller avec Jacques et Jean lors de la transfiguration. Il faisait nuit, ils étaient accablés de sommeil là, mais ils ont veillé, ils pouvaient veiller. Le mot traduit par endormi au verset 37 évoque l'idée d'être indifférent à son salut. Est-ce que c'était le cas de Pierre à ce moment-là? En tout cas, la question posée aux disciples vaut aussi pour nous qui sommes déjà chrétiens. Sommes-nous capables de veiller et de prier une heure quotidiennement avec le Seigneur ? Avec le Seigneur. Parce que c'est l'autre condition. Prier, c'est l'autre condition pour être fort. La première condition, c'est de lire sa parole, de lui faire confiance. Et l'autre, c'est de le prier. Et ça, c'est une relation. Non seulement lire et nous soumettre à la parole de Dieu, mais aussi passer quotidiennement du temps avec lui dans la prière, nous fortifiera. Dans une relation, il faut être deux. Ce n'est pas un sens unique. Dieu veut nous parler, il nous parle par la prière. Il nous parle par sa parole et nous lui parlons par la prière. Ne doutons pas que Dieu nous parle lorsque nous lisons la Bible. Demandons-lui de nous parler. Et peut-être que c'est difficile pour vous. Moi, j'avoue que c'était difficile de tenir une heure. Mais quand même, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Peut-être vous vous dites, mais comment prier une heure? Je ne trouve pas quoi dire pendant une heure. Oui, c'est vrai, prier, ça s'apprend. Et je vous propose un schéma très simple, dans une heure. Une heure, il y a quatre fois un quart d'heure. Eh bien, je vous propose, c'est une suggestion, de répartir cette heure en quatre temps. Premier temps, un temps d'adoration. Dire, je t'aime Seigneur, pour ce que tu es et ce que tu as fait. Deuxièmement, un temps de reconnaissance. Merci Seigneur, pour, trois petits points, je vous laisse compléter. Un temps de repentance. Pardon Seigneur, pour ce que j'ai fait, pensé ou dit qui t'a déplu. Et enfin, un temps de requête. Prier pour soi et prier pour les autres. Je résume simplement, et on peut y revenir après, hein, on a le temps de discussion mercredi. Quatre temps. Ça, pour se rappeler, s'il te plaît, le premier c'est « Je t'aime Seigneur », l'adoration. Le deuxième, « Merci Seigneur », la reconnaissance. Le troisième, « Pardon Seigneur », la repentance. Et le quatrième, « S'il te plaît Seigneur », on demande à Dieu. Quatre temps. Et ça passe très vite. Et bien voilà donc que Jésus réveille ses disciples. Et voici que le traître s'avance avec sa troupe. Mon troisième et dernier point, la parole s'accomplit. Dernier assaut colossal de Satan contre Jésus à Gethsémané. Et là, on va voir vraiment toute la noirceur de l'âme humaine dans Judas. Judas le trahit par un geste d'affection, un baiser. Et le mot évoque un baiser intense de quelqu'un qu'on aime vraiment fortement. Un geste affectueux et intense. C'était le signe convenu entre Judas et les gardes pour se saisir de Jésus. Et c'est là qu'on voit toute la lâcheté et l'hypocrisie de Judas. Judas qui appelle Jésus Rabbi, ce qui veut dire maître. Il l'appelle maître et il l'embrasse. Et c'est clair que ce n'est pas Jésus son maître, c'est Satan son maître, à qui il a ouvert la porte pour agir avec autant de fourberie. Et là, l'homme, l'homme utilise sa force dans toute sa perversion. Il va utiliser sa ruse pour trahir et sa lâcheté. Lâcheté d'user autant de violence envers Jésus qui est le prince de la paix, qui ne se défend même pas. La foule armée envoyée par les chefs religieux traite et arrête Jésus comme s'il était un malfaiteur, un dangereux malfaiteur qu'il faut neutraliser avec des épées et des bâtons pour l'empêcher de s'enfuir, alors que Jésus ne se défend même pas. À la violence, eh bien, un des disciples va répondre par la violence, en coupant de son épée l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. L'évangile de Jean nous apprend que ce disciple, il s'agissait de Pierre. Pierre qui agit encore humainement, il répond à la violence par la violence. Il répond de façon charnelle, dans une bataille qui, elle est spirituelle. On voit ici, toute la perversité, la saleté du cœur humain, ce dont il est capable. Quel courage! Non, plutôt, quelle lâcheté! Quelle lâcheté! Quelle théâtralité! Quelle hypocrisie! Jésus soulève l'absurdité de ce mode d'arrestation. Il ne cherchait pas à se cacher. Il était tous les jours dans le temple à enseigner. Pourquoi ne l'ont-ils pas saisi là? Réponse, Jésus le dit, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Non, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, les Écritures l'avaient prédit. Les Écritures avaient annoncé que Jésus serait trahi. Et je vous donne les références. Sa trahison avait été annoncée dans le psaume 41, verset 10. Les Écritures avaient annoncé qu'il serait arrêté et maltraité en Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Et aussi dans le psaume 22, verset 12 à 14. Les Écritures avaient annoncé qu'il serait abandonné dans Zacharie 13, verset 7, que j'ai lu tout à l'heure. Ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça, parce que les Écritures l'avaient annoncé. Alors, est-ce que ça veut dire que, ben oui, de toute façon, il n'y avait rien à faire, les Écritures, elles s'accomplissent. Oui, elles s'accomplissent et elles s'accompliront. Mais attention, frères et sœurs, ça n'enlève pas notre responsabilité. Nous sommes responsables de nos choix. Les disciples, quant à eux, eh bien, ils vont révéler non pas du courage, comme ils le croyaient, comme ils l'avaient affirmé haut et fort, mais ils vont révéler leur lâcheté. Ils vont tous abandonner Jésus, ce qu'il leur avait annoncé. Il y avait un jeune homme. Alors, qui était ce jeune homme? Est-ce que c'était un disciple? Est-ce que c'était quelqu'un qui le suivait? Nous dit le texte. Certains émettent l'hypothèse que c'était Marc lui-même, vêtu seulement d'un drap. Il s'enfuit tout nu. Ce jeune homme, à l'évidence, il s'était pas préparé au combat. Il n'a pas su résister. Alors, s'enfuir tout nu, c'est l'image d'un chrétien de nom. Un chrétien de nom qui ne résiste pas à l'épreuve, qui ne nourrit pas sa foi, qui ne dit pas la parole. La force de l'homme n'est que faiblesse. La parole de Dieu, elle s'accomplit et elle révèle la lâcheté du cœur. Alors, si parfois, nous aussi, on est désabusé de nous-mêmes, on voit que finalement, on se voit tel que nous sommes, parce que la parole nous le montre. On peut se voir lâche aussi. Et nous avons besoin de nous reconnaître lâches et faibles par nous-mêmes, sans le nier. Est-ce que tout s'arrête? Non, le Seigneur continue de nous aimer. La preuve, c'est qu'il n'a pas abandonné ses disciples. Ses lâches disciples, lui ne les abandonnera jamais. Alors, notre seul remède, c'est pas avant que ça soit notre obéissance à Jésus. Notre seul remède, c'est l'obéissance de Jésus. C'est l'obéissance que Jésus a eue à son Père. Notre seul remède, c'est l'obéissance de Jésus, la parole de Dieu incarnée. Il s'est rendu faible, sans défense, pour nous rendre forts. Jésus a pris sur lui le baiser hypocrite de Judas pour nous donner son amour vrai. Jésus a pris sur lui la trahison de Judas pour nous donner confiance en lui. Jésus a pris sur lui la violence de la foule en se laissant molester, en se laissant battre même, pour nous donner sa douceur et sa paix. Il a fait tout cela pour nous. Dieu, qui pourrait absolument tout transformer en un claquement de doigts, eh bien, c'est étonnant, il décide que son projet s'accomplirait par des hommes et des femmes bien faibles. Nous, des êtres humains imparfaits. Au final, quand on regarde ce texte, eh bien, on se rend compte que Dieu n'est jamais dépassé. Sa parole avait prévu tout ce qui allait se passer. Et nos faux pas, parfois nos obstinations, eh bien, sont le terreau dans lequel Dieu peut se révéler et agir. Et qu'à lui tout revienne toute la gloire. Et par là même, eh bien, il nous change quand on se rend compte de comment nous sommes. Et quel amour il a manifesté pour nous. Alors, frères et sœurs, n'attendons pas d'être parfaits. De dire oui à Jésus. N'attendons pas que les autres soient parfaits pour nous engager. Avant de prendre une décision et d'agir. Non, n'attendons pas. Jésus a obéi pour nous. C'est l'obéissance de Jésus qui rend possible notre obéissance à Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, oui, quand on réalise encore, Seigneur, combien tu as été patient avec nous, Seigneur, combien tu n'as pas abandonné tes disciples. Quand on voit, Seigneur, tout le cœur humain de ce dont il est capable, Seigneur. Et Seigneur, on peut bien sûr se retrouver. Pardonne, Seigneur, nos lâchetés, notre manque d'obéissance, nos désobéissances. Et merci parce que, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Même si parfois nous pouvons être déçus de nous-mêmes, Seigneur, tu nous relèves. Tu nous relèves, tu nous rends la vie. Parce que, Seigneur, tu as porté, Seigneur, pour nous, Seigneur, tu as porté toutes ces souffrances pour nous, Seigneur. Tu t'es laissé faire, Seigneur. Quel contraste, Seigneur, entre le cœur humain, sa lâcheté, sa trahison, et toi, Seigneur, qui a pris sur toi toutes ces choses pour nous rendre à ton image. Merci, Seigneur, encore. Ta parole, elle rend fort le faible, Seigneur. Merci. Je te remets chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous visites et que nous soyons pleinement, Seigneur, centrés sur toi, parce que tu nous aimes, tu n'es pas loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.